Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous recevons aujourd'hui dans notre émission Alexia Tsouni. Alexia Tsouni est aujourd'hui présidente du Bureau européen de l'objection de conscience et nous la connaissons bien à l'Union Pacifiste car elle a consacré un beau documentaire, il y a quelques années, à notre secrétaire Maurice Monté. Le 24 février 2023, en arrivant de Grèce, son pays natal, elle nous a rendu visite dans le local de l'Union Pacifiste, à Paris. Toujours enthousiaste auprès de ses amis pacifistes et toujours équipée de matériel photographique et cinématographique, elle en a profité pour filmer le local et les pacifistes présents. De notre côté, nous en avons profité aussi pour lui poser quelques questions sur son engagement.
Profession, c'est hydrologiste. Je travaille sur la recherche dans une publique recherche institut en Athènes. Ça s'appelle l'Observatoire d'Athènes national. Ça, c'est mon professeur. Mon diplôme, c'est ingénieur.
Oui, mais hydrologie, sur l'eau.
Hydrologie, sur l'eau, oui. Ah, ouais. C'est l'environnement et l'eau. C'est la ressource de l'eau, c'est l'écologie. C'est les applications pour...
Ben, un gros travail.
Oui, c'est un travail intéressant. Mais plus intéressant, que c'est les choses que je fais après mon travail, pour moi. Ça m'intéresse plus que mon travail. Donc l'activisme, c'est plus intéressant pour moi que mon travail.
Ah bon? Alors Alexia, j'ai l'impression que tu connais bien Maurice Monté. Tu l'as rencontré il y a quelques années et tu as même fait un film sur lui. Alors comment tu as rencontré ce fameux Maurice Monté?
Avec les réunions de BEOC, le Bureau européen des objections de conscience. C'est là où j'étais heureuse de lui rencontrer avec des autres amis aussi. Et pour moi, il a une personnalité très inspirante et... Il faut dire que je ne savais pas toute l'histoire de France. Et Et avec Maurice, j'ai découvert aussi l'histoire des mouvements pacifistes en France. Et je ne connaissais pas aussi les détails pour la colonisation d'Algérie, la guerre d'Algérie, tout ça. Donc Maurice m'a aidé pour découvrir ça. Et c'était tellement intéressant pour moi que j'ai décidé de faire un petit documentaire pour lui. Et aussi, il est très organisé, il a toute l'archive, il a toutes les journaux, les affiches, donc c'est une bibliothèque, une encyclopédie pour moi. Donc,
Mais tu dis que tu ne connaissais pas bien la France, en tout cas que tu ne connaissais pas bien le mouvement pacifiste en France, mais comment se fait-il que tu parles si bien français ?
Mon français, ce n'est pas bon. Je vais me dire excuse pour mon français. Je ne parle pas bien. Mais j'adore la langue française actuellement. Et c'était ça la raison que j'avais demandé à mes parents quand j'étais jeune, j'étais petite à l'école. Je voudrais aller apprendre le français. Parce qu'à l'école, on avait seulement l'anglais comme langue obligatoire étrangère. Mais moi, j'adore le français. C'est une langue pour moi très romantique, très musique, très, je ne sais pas, humaine. Et je voudrais apprendre le français. Et c'est vrai, mes parents m'ont envoyé dans une école privée. Donc après l'école et publique, chaque jour, j'avais une heure de français. Donc j'avais l'opportunité pour ça. Mais malheureusement, après, quand je suis partie, j'ai quitté mon vie, je suis entrée à l'université, l'école polytechnique d'Athènes. Et après, je n'avais pas de leçons, et je suis concentrée pour l'ingénieur et j'ai commencé à oublier le français. Mais tu vois, c'est l'activisme encore qui m'a rappelé le français parce que j'ai commencé d'utiliser la langue pour solidarité pour les réfugiés qui viennent, les francophones de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai recommencé de parler pas en pas. Et j'espère maintenant, je suis un peu mieux qu'avant. Mais ok, il faut m'améliorer. Il faut m'améliorer. Mais France est dans ma cœur toujours, donc la langue aussi.
Alors Maurice Monté, tu as de la chance, là tu rencontres Alexia qui vient de Grèce, c'est bien ça. Et alors que tu l'as rencontrée comment toi Alexia ?
Ah ben, je l'ai rencontrée par les réunions du BEOC, du Bureau Européen de l'Objection de Conscience. Et nous étions très contents d'avoir une jeune, puisque nous étions des anciens. Et il nous fallait une jeune dynamite pour nous représenter au Centre Européen de la Jeunesse. Alors là c'était... Alexia était la personne idéale pour nous envoyer là-bas, pour nous représenter au Centre européen de la jeunesse, qui dépend donc du Conseil de l'Europe, où les associations, un bon nombre d'associations européennes, ont leur place carrément. Et là, nous étions vraiment très bien représentés par Alexia, par son dynamisme et puis sa motivation militante pour l'objection de conscience.
Alors pourquoi Alexia est à Paris aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle fait à Paris aujourd'hui ? Elle est venue te voir spécialement ?
Alexia est venue me voir, mais pas uniquement moi quand même. Hein. Pas uniquement moi. D'abord, on y viendra peut-être après. Alexia a beaucoup aidé des réfugiés à Athènes. Et elle s'en occupe toujours. Elle en fait même une partie comme salariée, et puis par le gouvernement, et puis une partie par une grande partie bénévole. Donc, elle a réussi à faire accepter avec le droit d'asile et tout, les renseigner et tout, dans plusieurs pays d'Europe. Et elle va les retrouver. Elle va les retrouver parce qu'elle a gardé une relation d'amitié avec eux et elle en profite pour voir les copains, les groupes dans le coin. Ah, c'est juste ça.
Oui, c'est juste ça.
Si tu aimes les hommes, les problèmes, les échecs, prends le risque et viens. nuages, des orages avec moi. Des voyages, des nuages, des orages avec moi. Cher moi, là-bas au bord de l'eau, on joue toute la nuit. Cher moi, des hommes jeunes et beaux, parfois parient leur vie. Prends tes armes, tout ton charme, mets des larmes à tes yeux secs. Je regarde, je bavarde, prends bien garde, je suis grec. Allons, viens, ouvre ma porte et rentre avec le soir. Sois superbe, viens te perdre, oui, viens perdre la mémoire. Sois superbe, viens te perdre, oui, viens perdre la mémoire. Chez moi.
Pour animer l'émission que nous faisons aujourd'hui avec Alexia Tsouni, nous avons choisi la célèbre chanteuse Mélina Mercouri pour nous accompagner en musique et en poèmes. Mélina Mercouri, décédée en 1994, a été une artiste engagée. Réfugiée en France en 1967, après avoir été privée de ses droits par les colonels qui ont pris le pouvoir en Grèce, mais elle retournera en Grèce en 1974 après la chute de la dictature et deviendra en 1978 ministre de la Culture en Grèce. Alors nous devons remercier Mélina Mercouri pour son apport à la culture française, comme le fait aujourd'hui dans notre émission Alexia Tsouni en rendant visite aux pacifistes français et en déclarant son attachement à la langue française.
J'ai beaucoup de raisons de visiter Paris, plus haut et plus haut chaque fois, parce que c'est d'abord Maurice, qui c'est la priorité pour moi, d'abord. Et aussi, je suis très inspirée par les luttes françaises, par les mouvements non violents. Je veux demain participer à la manifestation avec les Unions pacifistes, et parce que toujours France pour nous, en Grèce, c'est un bon exemple. Et c'est un bon exemple du principe de non-violence, un bon exemple de l'organisation, de toute l'histoire qui se continue et toute la solidarité, par exemple, et vous faites beaucoup de choses à beaucoup de niveaux différents. Et par exemple, avec le magasin que vous faites, Union Pacifiste, et ça c'est magnifique. Et que dans ça, vous, par exemple, cette version ici, cette édition, vous avez un très grand succès pour concentrer des nouvelles de pacifisme de tout le pays. Ce n'est pas seulement concentré en France, c'est vraiment internationalisation. Donc, ça c'est très bon. Mais je vais aussi participer à la manifestation parce que je sais ici, c'est très dynamique, c'est très enthousiaste. Il y a beaucoup d'organisations. En Grèce, nous ne sommes pas tellement forts actuellement pour les mouvements des objections de conscience et de pacifisme. C'est un peu, spécialement avec les guerres d'Ukraine et Russie, c'est un peu, comment dire, divisé. Un peu divisé, ce n'est pas clair. Ici, par exemple, moi, je pense que c'est très clair Et je veux avoir cette expérience de manifestation. Et aussi, c'est la raison que Maurice a dit, parce que on aide beaucoup de personnes en Grèce quand ils sont sans papier, quand ils sont dans les centres de détention. Et finalement, on est devenus des amis avec eux. Et maintenant, quelques familles ou quelques couples, même avec les enfants, ils prennent l'asile en Grèce. Après, ils voyagent dans un autre pays. Quelqu'un s'installe ici. Donc, il y a deux familles maintenant qui sont installées en France. Je voudrais les visiter aussi ici. Je les avais dans ma maison pour beaucoup de temps. On est des amis maintenant, vraiment. Mm-hmm. Des Africains toujours, hein? Africains francophones.
Oui, mais justement, puisque vous avez dit que la France était un exemple, est-ce que vous pensez, vous, en Grèce, que la France est un exemple pour l'accueil des réfugiés?
Pour laquelle, excusez-moi?
Pour l'accueil des réfugiés. La France n'a pas une bonne presse là-dessus. Enfin, la France n'est pas bien vue. La France n'accueille pas beaucoup de réfugiés.
Pour les réfugiés, la France, ce n'est pas dans les frontières, dans les premières, parce que la frontière de l'Europe, de l'Union européenne, oui, ce n'est pas France. Grèce, c'est la frontière. Ça, c'est la raison, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive premièrement en France. C'est la Grèce, par exemple, elle accepte beaucoup.
Et l'Italie.
Et l'Italie, oui. Et l'Espagne aussi, et d'Afrique. Nous, plusieurs, on prend le Middle East, d'Asie. Mais quelle est la différence? Grèce maltraite beaucoup le réfugié. Même les applicants d'asile, ils font souffrir des conditions inhumaines. Mais ce n'est pas moi qui dis ça. Même à Strasbourg, le Cour européenne pour le droit de l'homme, ils ont beaucoup de fois convicté Grèce pour le traitement inhumain contre les réfugiés. Donc, il faut les aider beaucoup, même pour nourriture, même pour avoir une place de dormir. C'est très difficile en Grèce. Même que le gouvernement grec prend beaucoup d'argent de la Réunion européenne, on prend beaucoup d'argent pour les réfugiés, et je ne sais pas comment il disparaît. Tout l'argent, il disparaît, et finalement, à la réfugiée même, il n'arrive pas toute l'assistance. Mais ici, l'État, c'est un État plus organisé, un État social. Peut-être que ce n'est pas le parfait ou ce n'est pas comme était avant, je sais, mais encore, c'est très social, il y a les structures, il y a quelques droits basiques pour tous, il y a une procédure, il y a des assistances sociales, il y a des avocats. En Grèce, ça c'est luxe, ce n'est pas la normalité, c'est l'exception.
L'innocent chante sans espoir. Et l'adieu sur le quai d'un port. Avec la vie porte la mort. Monsieur le juge porte la loi. Elle la présente au bout des doigts. Moi l'étrangère universelle, oh, 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 oh. Je porte le deuil de mon ciel. Moi l'étrangère universelle, oh, 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 oh. Je porte le deuil de mon ciel. L'amour pourtant lui le bonheur, et le chagrin selon le seul, et la justice qui punit, avec la mort, avec la mort porte la vie. S'envoler
ciel. Oh, 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 je porte le deuil de mon ciel. Moi, l'étrangère universelle. Oh, 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 je porte le deuil de mon ciel.
Après cette chanson de Mélina Mercouri intitulée « L'étrangère », je vous remercie d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alexia Tsouni, présidente du Bureau européen de l'objection de conscience et engagée dans l'accueil des réfugiés en Grèce. Elle nous a dit comment les exilés étaient maltraités en Grèce et comment elle imagine qu'il y aurait un meilleur traitement en France.
Alors je vais être obligé de commenter, hein, parce que Alexia ne connaît pas toute la France, elle ne sait pas comment on traite les réfugiés à Calais et comment on les traite quand ils sont à Paris sous le métro. La police les pourchasse, est en train de supprimer toutes leurs tentes, leur pique tout et les maltraite aussi. Alors je ne sais pas si c'est la même chose en Grèce, mais en France c'est très dur pour eux. Tu es d'accord, Maurice ?
Tout à fait, malheureusement. Il y a qu'à voir... Quand on prend le périphérique, les petits cabanons des réfugiés là, et puis on entend parfois qu'un secteur a été complètement liquidé par les CRS, ça fait mal aux tripes. Hein. Non, la France n'est pas du tout un exemple. Et ce que nous regrettons beaucoup, avec le Bureau européen de l'objection de conscience, nous avons demandé l'accueil des réfugiés. Aussi bien russes, biélorusses qu'ukrainiens, dans les pays de la communauté européenne.
Ceux qui refusent de faire la guerre.
Oui, ceux qui refusent de faire la guerre. C'est pour nous, de tous côtés, bien sûr. Hein. Alors, la communauté européenne a dit qu'elle les acceptait volontiers, mais en fait, quand les gars arrivent en France, ils n'arrivent pas à avoir leurs papiers, il faut faire des démarches et tout. Il y en a qui ne s'en sortent pas pour obtenir le droit d'asile. Entre les belles paroles du communauté européen, de la communauté européenne et de la France, et la réalité de l'accueil des réfugiés, c'est absolument scandaleux, parce qu'il y en a qui traînent et tout, comme ça, qui ne sont... ils restent sans papiers, sans droit d'asile. Alors qu'on leur avait promis, surtout les Russes, hein, d'être accueillis. Donc ça, nous avons interpellé le gouvernement, fait des pétitions et tout, mais même si les intentions annoncées étaient bonnes, il y en a qui galèrent encore depuis longtemps.
Hein. Alors sans parler des déserteurs, des objecteurs qui viennent de tous ces pays... Il y avait aussi les Ukrainiens que nous avons accueillis en France assez bien. Et justement, les fameuses populations africaines, francophones, ne sont pas accueillies du tout de la même façon en France.
C'est la même chose en Grèce, malheureusement. C'est la même chose en Grèce parce que tout le temps, on avait les demandes pour les accueillir bien, comme être humain, avec dignité, avec tout. Mais pour nous aussi, c'était bizarre. Et bien sûr, ça, c'est hypocrisie et ça, c'est très raciste. Hein, parce que les Ukrainiens sont blancs, sont chrétiens, sont européens. Bien sûr, il faut les accueillir, mais il faut les accueillir à la même manière, les réfugiés de l'Afrique, même s'ils sont noirs, même s'ils ont je ne sais pas de quelle religion. Et donc, ça montre l'hypocrisie de l'Europe. Mais il y a une autre double standard, comme on dit, qui est même de la guerre d'Ukraine. Et en Grèce, on accueille très bien, et je pense que ça c'est pour toute l'Europe, on accueille très bien les Ukrainiens, et immédiatement ils prennent le papier. Mais les Russes qui sont objecteurs de la même guerre, ils sont les mêmes couleurs, ils sont les mêmes religions tout même, et on ne les accueille bien, pas du tout. Nous sommes toujours peur, nous avons peur pour les grands, pour les donner les droits d'asile. Et même si c'est eux qui sont dans la position plus vulnérable, parce que s'ils peuvent vraiment, avec le régime de Poutine, ils peuvent vraiment être en prison s'ils parlent pour les objections en public. Ok, s'ils ne parlent pas, ok, mais s'ils parlent en public, s'ils protestent, on voit combien des arrêts, des emprisonnements, de tortures humaines. Donc, il faut avoir le même traitement envers tous les réfugiés, de toutes les guerres et de tout le pays. C'est ça qu'on n'est pas bien pour ça.
Συνεφώ απ' το καιρό μοναχό μες στον ουρανό γύρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα χέρια σα φτερά που δεν εγνώρισαν χαρά πάλεψα με το κύμα. Είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Κι ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φίλι, μα συντροφιά δεν είχα. Με την καρδιά μου μια πληγή περπάτησα σ' αυτή τη γη που είχα να τη ζήσω. Μα μου τα πήραν πονηρή το όνειρο και την αδική και φεύγω πριν αρχίσω. Σαν σύννεφο απ' το γυαλό μοναχό μες στον ουρανό θα έρθω ξανά κοντά σου. Μέσα σε εκείνη τη βροχή που σ' άφησα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή μου. Θα έρθω ξανά απ' τα παλιά σαν το πουλί απ' το νοτιά την πόρτα να χτυπήσω. Θα είναι μια άνοιξη πικρή, πολλά θα ανοίγουνε στη γη κι απ' την αρχή θα αρχίσω. Άνε μια άνοιξη πικρή, πολλά θα ανοίγουνε στη γη κι απ' την αρχή θα αρχίσω.
Mélina Mercouri interprétait la célèbre chanson « Le Métèque » de Georges Moustaki, vous l'avez reconnu certainement, et nous reprenons maintenant notre entretien avec Alexia Tsouni, qui a rendu visite le 24 février 2023 à Paris à ses amis de l'Union pacifiste.
Alors, on a parlé des réfugiés un peu qui venaient un peu de partout, mais surtout aussi de ceux qui viennent d'Ukraine et de Russie, et notamment de l'objection de conscience. Alors Maurice, tu voulais poser une question justement à Alexia, tu vas la poser. Comment, pourquoi elle s'est intéressée à l'objection de conscience? C'est ça que tu voulais demander.
Oui, parce que au départ, Alexia, tu étais un des responsables du bureau d'Amnesty International Grèce. Et s'est posé à ce moment-là la question des objecteurs de conscience qu'Amnesty a tout de suite soutenu, notamment avec notre ami Mihalis Maragakis qui a été en prison, que nous avons soutenu, et tu avais créé un petit groupe au sein d'Amnesty pour le soutien des objecteurs, et ce petit groupe est devenu l'association des objecteurs grecs, hein, si j'ai bien compris. Qui avait déjà deux groupes, hein, ceux qui demandaient un statut pour les objecteurs et ceux qui, position plus anarchiste, qui ne voulaient pas du statut. Donc, cette association des objecteurs grecs est devenue rapidement un groupe du Bureau européen de l'objection de conscience. Et grâce à toi, nous avons mené une campagne importante pour obtenir le statut des objecteurs en Grèce, ce qui a été vraiment très fort. Et le fait qu'on ait Paul Miralis et puis un autre copain qui était en prison, donc ça nous donne un cheval de bataille pour faire quelque chose de fort. Et nous avions des personnes très engagées en Grèce, non seulement ceux qui étaient en tôle, mais Alexia et son petit groupe qui vraiment nous ont beaucoup aidé aussi, le Bureau européen de l'objection de conscience, et nous ont permis de faire cette campagne pour obtenir le statut des objecteurs que nous avons fini par obtenir.
Alors ça a été difficile, Alexia, d'obtenir ce statut des objecteurs de conscience. Il a fallu du temps, il a fallu convaincre des gens. Et après, deuxième question, qu'est-ce qu'en pense le gouvernement actuel?
Bonne question. En Grèce, malheureusement, toute la société, c'est très conservative. Et on a toujours la peur qu'on a les ennemis partout. Donc, toute la société conservative, elle n'accepte pas les droits des objections de conscience. Mais moi, ce n'est pas jusqu'à ce que je suis partie à l'université que j'ai appris qu'il y a les droits, comme les droits humains. Mais moi, je ne savais pas. Donc, j'ai décidé de m'occuper pour ça, parce que, tu sais, je suis féministe, et j'ai dit, mais ça, c'est une discrimination contre les hommes, hein? C'est l'opposite, c'est le contraire. Et parce que j'ai dit, ça, ce n'est pas juste, hein? Parce que, pourquoi il faut, par force, ok, si tu veux aller professionnel, ok, je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas te forcer. Mais pourquoi il oblige les hommes d'aller faire ça, même quand leur conscience dit non? Donc, ça, c'est injustice, c'est discrimination. Et je voulais faire quelque chose pour ça. Et c'était tellement dur, parce que vraiment, on n'avait pas les lois jusqu'à 1997. Et c'était la loi qui s'était signée en Grèce, qui s'est adoptée par le gouvernement grec. Et moi, j'ai attendu pour ce droit par Amnesty International, que j'étais membre d'abord. C'était ça, la première organisation que j'ai connue dans l'université, c'était Amnesty International. Et j'étais très choquée quand je suis partie dans une cour de justice militaire. C'était parce qu'en Grèce, même si tu es citoyen, tu n'es jamais parti au militaire, il te passe des corps de justice militaire si tu ne veux pas servir. Et j'étais choquée parce que c'était Lazaros Petromelidis, je suis partie pour lui comme solidaire, et la militaire, ils l'ont pris, on s'assit comme ça, et ils l'ont pris de moi, et ils l'ont arrêté, et ils l'ont transféré de prison militaire. Et j'étais très choquée pour ça. Ça, c'est des jeunes, mais jamais va oublier ça. Et j'ai dit, non, ça, ce n'est pas normal. Hein. Lazaros était allé pour corps de justice 16 fois pour la même chose. Chaque fois, il lui dit, tu es condamné, et la journée prochaine, il appelle de nouveau pour l'armée. La même chose, chaque fois, de nouveau. Même si chaque fois, il dit, non, je ne pars pas. Donc, il y avait beaucoup d'injustices en Grèce. Et après toutes les luttes de le grec objecteur de conscience et les objecteurs total qui n'acceptent même le service civil, et avec la soutien international et la solidarité internationale. Je me rappelle Maurice, il venait même pour la cour de justice militaire pour parler au tribunal, pour expliquer que ce que vous faites ici, ça, ce n'est pas démocratique, hein? Parce que Grèce, on dit, oh, nous sommes le pays où la démocratie est née, et tout ça. Mais quand tu peux dire ça, quand tu as des personnes pour conscience dans la prison, comment tu peux dire ça? Ça, c'est hypocrisie aussi. Donc, c'est ça la raison que je voulais aider comme ça. Et vraiment, c'était pour moi aussi bizarre, parce que je me proposais pour être président de BEOC, Et c'était la première femme qui était présidente de BEOC. C'était pas normal. Mais ok, c'est le minimum que je peux faire. Hein. Parce que moi-même, je ne peux pas devenir objecteur de conscience. Donc, pour moi, c'est une action de solidarité pour les hommes. C'est ça que je pense comme ça.
Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. À Pilion, parmi les oliviers, la tunique du centaure glissant parmi les feuilles a entouré mon corps. Et la mer me suivait pendant que je marchais. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. À Santorin, en frôlant les îles englouties, en écoutant jouer une flûte parmi les pierres ponces, ma main fut clouée à la crête d'une vague, par une flèche subitement jaillie des confins d'une jeunesse disparue. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. À Mycène, j'ai soulevé les grandes pierres et les trésors des Atrides. J'ai dormi à leur côté à l'hôtel de la belle Hélène. Ils ne disparurent qu'à l'aube lorsque chanta Cassandre, un coq suspendu à sa gorge noire. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Aspète. Et à Mykonos, les barcaoles m'ont soulevé le cœur. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Que veulent donc ceux qui se croient à Athènes ou au Pirée? L'un vient de Salamine et demande à l'autre s'il ne viendrait pas de la place Monia. Non, je viens de la place Sindarma, répond-il satisfait. J'ai rencontré Yanis, elle m'a payé une glace. Pendant ce temps, la Grèce voyage. Et nous n'en savons rien. Nous ne savons pas que tous nous sommes marins sans emploi. Et nous ne savons pas combien le port est amer quand tous les bateaux sont partis. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Drôle de gens, ils se croient en Attique et ne sont nulle part. Ils achètent des dragées pour se marier. Et ils se font photographier. L'homme que j'ai vu aujourd'hui, assis devant un fond de pigeons et de fleurs, laissait la main du vieux photographe lui lisser les rides creusées sur son visage par les oiseaux du ciel. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Pendant ce temps, la Grèce voyage. Voyage toujours. Et si la mer Égée se fleurit de cadavres, ce sont les corps de ceux qui voulurent attraper à la nage le grand navire. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Le Pirée s'obscurcit. Les bateaux sifflent. Ils sifflent sans arrêt. Mais sur le quai, nul cabestan ne bouge. Nulle chaîne mouillée n'a scintillé dans l'ultime éclat du soleil qui décline. Oh, que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Rideau de montagne, archipel, granit dénudé. Le bateau qui s'avance s'appelle Agonie.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre le poème « Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse », poème écrit par le poète et diplomate grec Giorgos Seferis en 1936, quand la dictature de Ioannis Mattakas instaurait une sévère censure en Grèce. En 1963, Giorgos Seferis obtient le prix Nobel de littérature. Mais le 21 avril 1967, quand les colonels font un coup d'État et prennent le pouvoir, imposent également à nouveau la censure, Giorgos Seferis décide alors de s'imposer le silence. Et il refuse un poste prestigieux à l'université d'Harvard en 10 ans. Lorsqu'on n'a pas la liberté d'expression dans son propre pays, on ne peut la trouver nulle part au monde. Je veux demeurer auprès de mon peuple pour partager les aléas de son destin. Georges Seferis meurt le 20 septembre 1971. Le 22 septembre, une foule immense suit le cortège funèbre du poète jusqu'au premier cimetière d'Athènes, tandis que des étudiants reprennent en chœur la chanson de Giorgos Seferis, alors interdite, sur la musique de Mikis Theodorakis.
Με τη ζωή
Après cette chanson de Giorgos Seferis, nous reprenons notre entretien avec Alexia Tsouni, présidente du Bureau européen de l'objection de conscience. Alexia Tsouni a rendu visite aux pacifistes français le 24 février 2023.
Et aujourd'hui, alors en Grèce, où vous avez un gouvernement qui est plutôt placé à droite, d'après ce que je crois savoir,
oui.
Et qui prépare aussi peut-être des affrontements avec les voisins ou avec le voisin, ennemi traditionnel.
Oui.
Bon, alors comment ça se passe actuellement pour eux ?
Turquie est notre ami traditionnel, mais tu vois la nature, comment la haine catastrophe de nature comme les tremblements de terre qu'on avait... dernièrement,
oui.
Comment elle nous a apporté à côté. Et maintenant, aucun parle pour l'ennemi, maintenant on parle même en Grèce et en Turquie, on parle que nous sommes le frère, nous sommes le même, nous souffrons, on envoie l'aide humanitaire. Maintenant ça a changé, le climat maintenant c'est très bon. Mais le gouvernement, encore, on n'a pas de personnes en prison, ça c'est très bon. On a beaucoup, on avait fait un grand progrès pour le droit des objecteurs, il n'y a aucune en prison. Mais ça, on a des autres problèmes. Que chaque fois que tu refuses d'aller pour le militaire, il y a maintenant les punis financiers. Chaque fois, le corps de justice ne t'envoie pas aux prisons militaires, mais tu dois payer 6 000 euros chaque fois que tu es convicté pour ne pas résister en armée. Et ça, ça peut répéter. Et l'autre chose est que ce n'est pas automatique. Si je fais l'application pour le service social alternatif, ça s'est accepté. Non, il y a un comité avec des personnes militaires dans le comité, 5 personnes, et il y a une personne ou des militaires, ça change. Et c'est le ministère de Défense qui décide pour ton application, imagine. S'ils vont t'accepter pour aller servir, et ça c'est plus long. Et bien sûr, ce n'est pas la même condition. Et il y a malheureusement avec cette gouvernement, c'est la pire qu'on avait jusqu'à aujourd'hui pour le droit des objecteurs. Et l'année 2021, c'était 0% recognition des applications des objecteurs de conscience idéologique. Il accepte seulement les applications des religieux objecteurs comme les Jehovah's Witnesses, les religieux, il accepte. Ceux qui sont le papier des baptismes de leur église. Si tu pars avec le papier que je suis baptisé dans l'église de Jéhovah, c'est bon, il t'accepte. Mais si tu n'as pas le papier, si tu n'es pas pour les raisons religieuses, tu es pour les raisons morales, humanitaires, politiques, idéologiques, tout
anarchiste.
Ça. Anarchiste, oui, puis tout, communiste, toutes les idéologies.
Alors
non.
Ça, c'est refusé.
On avait le pur pourcentage, 0% l'année passée. Maintenant, on attend le résultat pour le 2022. Donc, ça veut dire qu'il y a les lois, ok, mais en pratique, les lois n'est pas en force pour les catégories d'objection idéologique.
Le service militaire est toujours obligatoire en Grèce.
Malheureusement, c'est toujours obligatoire et c'est 12 mois. Et maintenant, le service social, c'est 15 mois. C'est toujours obligatoire et ça, c'est un problème parce que c'est les propagandes militaires qui passent dans les militaires. Et ce n'est pas que cette militaire, bien sûr, ça, c'est fonctionnel, c'est professionnel. Ça, même les militaires, les grands militaires, ils disent ça. Hein, ce n'est pas ça la proposition. c'est pour avoir les disciplines militaires, l'éducation militaire. Et on a beaucoup d'évidence que ça aussi augmente la violence dans toute la société. La violence domestique contre les femmes, la violence entre les hommes, aussi la violence partout. Parce que c'est agressif, hein? Même le type de formation, c'est tout. Les propositions, c'est ça.
Lui qui disait je vous récolterai les fruits, lui qui disait et je vous aimerai aussi, lui qui portait pour faire le procès de ses juges à sa boutonnière neuillée rouge. Dis-moi pourquoi mon camarade, c'est un dimanche en se cachant dans la nuit blanche de leur phare qu'ils ont tué mon camarade. Le vois-tu comme je le vois dans son costume de l'estin, un œillet rouge dans ses doigts et tout son sang sur le chemin. Lui qui disait les lendemains seront fleuris, lui qui savait quelle fleur cache le mot ami, lui qui disait pour vous je donnerai ma vie, c'est cet homme-là qu'on nous a pris. Le vois-tu comme je le vois dans son costume de destin, un œillet rouge dans ses doigts et tout son sang sur le chemin. Souvenez-vous les œillets rouges, souvenez-vous-en toujours, pour tant de bonté, tant d'amour, je ferai battre les tambours.
L'œillet rouge, cette chanson de Mélina Mercouri, nous replonge dans une période sombre de l'histoire de la Grèce. Elle nous replonge dans la dictature militaire des colonels, cette dictature qui a opprimé le peuple pendant 7 ans, de 1967 à 1974. Pour l'émission Panorama de la télévision française, un journaliste s'est rendu clandestinement à Athènes quelques jours après le putsch militaire du 21 avril 1967. Et il a interrogé des intellectuels grecs, présenté d'ailleurs de façon anonyme.
Pour les Grecs, demain, c'est Pâques. La plus grande fête de l'année, la Pâque orthodoxe, qui se célèbre avec un mois de retard, un peu plus d'un mois de retard, sur notre calendrier à nous. Et pour tous ceux qui ne sont pas concernés ou ne se sentent pas concernés par les événements politiques qui viennent de se dérouler dans le pays, la première préoccupation, c'est d'aller dans les petites boutiques spécialisées, acheter les guirlandes, les œufs multicolores que l'on va offrir à la famille, à ses parents, à ses amis. Aussi d'aller brûler dans les églises, dans les petites chapelles que l'on voit un peu partout, les cierges, et de préparer l'office pascal qui aura lieu demain soir à minuit. À cet office pascal, il y aura d'ailleurs certainement beaucoup plus de monde que d'habitude pour une simple raison. C'est que le nouveau gouvernement, le gouvernement militaire, vient de prendre un décret obligeant les enfants des écoles à assister à tous les offices religieux. Le nouveau gouvernement, qui se veut, selon une tradition désormais bien connue, dur et pur et même moralisateur, a aussi pris d'autres décrets interdisant notamment le port des cheveux longs et même celui de la mini-jupe, sauf pour les touristes bien entendu. D'ailleurs, que l'on soit touriste ou journaliste, lorsqu'on est arrivé depuis quelques jours à Athènes, ce qui frappe c'est d'abord cette impression d'une ville où il ne s'est rien passé, et surtout pas un putsch militaire il y a tout juste 8 jours. Les magasins sont ouverts, vous l'avez remarqué, la circulation est tout à fait normale, c'est-à-dire toujours aussi désordonnée et échevelée, Ça, vous le voyez maintenant. La foule est dans les rues, une foule d'ailleurs qui profite de ce que, depuis deux jours, le couvre-feu a été levé pour se promener très tard dans la nuit et se mêler aux touristes américains le long des pentes de l'Acropole ou dans le vieux quartier de Plaka. Athènes, donc, paraît tout à fait normale à première vue. Tout à fait normale à un détail près, cependant. C'est la présence de ces chars, de ces automitrailleuses, de ces mitrailleuses en batterie. On est obligé de filmer un peu en cachette, car en principe, toute prise de vue est interdite en ce moment à Athènes. Ces chars qui sont situés au point stratégique de la ville, devant le Parlement par exemple, au Pirée, devant le stade olympique, face à l'Acropole et aussi dans quelques terrains vagues tout autour de la ville. 150 chars ont pris Athènes. 150 chars, maintenant il n'en reste plus guère qu'une poignée. Une poignée qui sont là comme une sorte de symbole pour rappeler aux opposants éventuels qu'ils n'ont plus pour le moment qu'à se taire et à incliner la tête. D'ailleurs, la vague d'arrestation qui a eu lieu, l'installation des tribunaux d'exception, la censure, la délation organisée par le gouvernement ont suffi, je crois, à étouffer pour le moment toute velléité de résistance.
Vous avez accepté de me parler, mais seulement dans l'ombre, en vous cachant. On prend tellement de risques que cela, quand on veut parler librement en ce moment en Grèce.
Ce qu'on est en train de faire est passible de la loi militaire. On risque soit la déportation sans jugement, directement, sans que personne soit avisé, c'est-à-dire la disparition complète, soit au mieux la cour martiale, le tribunal militaire. Il est défendu de divulguer des informations qui pourraient
qui nuiraient à la sécurité du pays.
Voilà.
Je crois qu'il est inutile de vous demander ce que vous pensez du régime qui vient de s'installer au pouvoir en Grèce.
Il ne nous est pas permis de penser.
Mais tout de même, ce régime, il semble avoir maintenant un semblant de légalité, puisque même le roi a accepté de le présider, enfin de présider un conseil de cabinet.
C'est bien notre dernier espoir qui disparaît avec cette acceptation du roi.
Vous êtes monarchiste ?
Non, je suis républicain. Non, je suis républicain, mais je viens d'une famille qui a été monarchiste pour des générations, et je sais que les monarchistes eux-mêmes ont été déçus par l'attitude du roi, dont la fonction était de protéger la Constitution au risque même de sa vie. Le roi n'existe pas en tant que personne, le roi existe en tant que fonction. Il n'existe qu'en fonction du serment qu'il a prêté de défendre le peuple grec et la constitution du peuple grec.
Vous n'avez pas l'impression qu'en approuvant le coup d'État, il a en quelque sorte condamné à plus ou moins longue échéance la monarchie en Grèce ?
Oui. Certainement. Oui. Bien sûr, à moins qu'il y ait qu'on utilise ce fameux silence de quelques jours ou la prétendue coercion qui a été exercée pour des fins de propagande ridicule, mais qui pourrait prendre après le roi héros.
Vous savez que le gouvernement en place dit qu'il a l'approbation de toute la population.
Les élections étaient dans un mois, ça s'est pas attendu.
Mais on a l'impression tout de même, quand on se promène à Athènes, que la vie est normale. On a même l'impression d'une certaine apathie de la foule grecque, si vous voulez. On n'a pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose ici.
On ne peut pas comprendre apathie et peur. Tous les gens qui avaient un pouvoir à tête d'un groupe structuré, que ce soit syndicaliste ou autre, a déjà été déporté. Et donc, on se retrouve des individus face à des militaires.
Mais comment cela peut-il se terminer? Vous savez que le gouvernement en place dit qu'il n'est là qu'à titre transitoire pour ramener l'ordre et qu'il laissera la place ensuite aux institutions parlementaires normales.
Il me semble que c'est un leitmotiv de toute dictature. On ne peut pas savoir si ils vont continuer en durcissant ou s'ils vont monter un semblant de démocratie rien que pour endormir les gens. De toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, ça finira mal.
Vous pensez que des petits noyaux de résistance vont se former dans le pays ?
Très certainement, inévitablement. Vivre normalement, comme dans n'importe quel pays du monde libre, c'est de la résistance. Lire ou penser ou parler, c'est de la résistance déjà.
Vous ne croyez pas que vous exagérez un petit peu les choses ?
Non, je ne crois pas. Tant qu'il y aura des lois nous défendant de divulguer des informations qui pourraient nuire à la sécurité du pays, tant que n'importe quel agent de police peut arrêter n'importe quel homme sans aucune excuse dans la rue,
fouiller une maison,
sans mandat, je ne crois pas qu'on exagère.
Politiquement, avant les événements, vous vous situiez comment ? Vous étiez à gauche, bien sûr, mais vous étiez communiste ?
Oh,
non.
Aucun d'entre vous ?
Pas moi, non. Moi, personnellement, j'étais du centre.
Centre-gauche. Plutôt gauche. Vous auriez voté pour Papandréou le 28 mai ?
Oui, pas pour l'homme, mais pour Lisier.
Est-ce que les jeunes aujourd'hui se souviennent encore du régime des colonels en Grèce ?
Oh, c'est une bonne question. Chaque année, on fait les anniversaires et on parle pour l'histoire et tout ça. Mais c'était vraiment les plus mauvaises histoires contemporaines de Grèce, les 7 années de la dictature militaire, la junta. Et beaucoup de personnes sont exécutées, beaucoup de personnes sont torturées. Ce n'est pas écrit dans les livres de l'école, parce que les jeunes populations ne connaissent rien, parce qu'il dit que c'est très moderne, il faut passer un peu de temps et après écrire les livres d'histoire. Nous sommes contre ça. Parce qu'il faut bien savoir ton histoire, parce que l'histoire, ça répète. Et il y a des actions aussi, il y a des associations de personnes qui étaient torturées, qui étaient en exil, qui étaient exécutées. Il y a des associations. Et même Amnesty International, en Grèce, actuellement, était fondue comme ça. C'était les personnes que Amnesty International des autres pays avait aidées pendant la junta militaire, qui est pour la gratitude et pour aider des autres personnes. Quand la junta est terminée, ils ont décidé de faire amnistie aussi en Grèce. C'est comme ça que la section grecque est établie.
Mais alors, ceux qui militent actuellement contre la guerre, que ce soit la guerre en Europe, ou ceux qui refuseraient un régime militaire ou le retour d'un régime militaire en Grèce, est-ce que ces gens-là, quel âge ils ont aujourd'hui ?
Oh, malheureusement, ce n'est pas de l'âge spécifique. Hein. C'est dans tous les âges, parce qu'il y a des âges, personnes qui pensent que c'était mieux comme ça, quand on avait le colonel de junta. Il y a aussi des jeunes personnes qui ils ont des difficultés, par exemple, financières à cause de la crise économique, qu'il veut toujours avoir quelques raisons, il veut toujours mettre la responsabilité, et quelquefois si c'est les immigrants qui ils ont leur faute qu'on a des crises économiques, c'est les différences et tout. Et c'est une aussi idée que non, c'est le système démocratique qui c'est le problème pour la crise économique ou pour la corruption, pour tout ça, et il faut essayer un autre système. Donc c'est ça la raison, il faut toujours connaître bien l'histoire pour ne pas répéter cette chose, parce que ça part dans tous les âges.
Alors la Grèce s'équipe aujourd'hui de matériel militaire important. La France a vendu quelques avions, la France a vendu aussi quelques bateaux, enfin je n'en sais rien, peut-être des canons, enfin tout ce que peut vendre la France. Elle adore vendre des armes. Alors pourquoi est-ce que les militaires ont tellement besoin d'armes actuellement en Grèce ?
Ça, c'est vraiment tragique, parce que même pendant le Covid, on a réalisé Και on a beaucoup de tanks, beaucoup de bateaux, beaucoup de avions militaires. Et on avait assez d'hôpitaux, on avait assez d'infrastructures médicales, équipements médicaux pour sauver les vies. Parce que notre vie, ce n'est pas un danger en Grèce. Moi, je suis grecque. Ma vie n'est pas un danger à cause des Turcs. Tu vois, maintenant, nous sommes encore des amis après les catastrophes
Le tremblement de terre.
Donc tout ça, c'est mon avis, c'est que c'est le politique qui veut créer ce climat de peur, ce climat d'opposition, ce climat de toutes ces agressives. On ne fait rien avec ça. C'est dommage vraiment, au lieu d'avoir plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de services sociaux. On a beaucoup de problèmes, par exemple, avec la violence domestique et on n'a pas assez de maisons sécuritaires pour protéger les victimes de violences domestiques. On n'a pas assez de services sociaux pour les personnes qui ne peuvent pas...
Les handicapés.
Donc, c'est ça nos problèmes vrais, pas les militarismes.
Mes amis d'hier, mes compagnons, mes amis perdus, dans quelle île, quelle ville, dans quelle prison, où avez-vous disparu? Nous prenions la vie au corps à corps, nous mendions dedans. Nous étions fragiles et pourtant si fous d'avoir ensemble 20 ans. Nous avions des rires à faire chanter les taudis du port et de ces révoltes à faire se dresser une ville qui sonne. Aujourd'hui, je n'ai de vos sourires et de vos regards qu'une ou deux photos qui s'en vont jaunir. Dans un livre ou un tiroir. Et pourtant, c'est vous, mes camarades, que je vois toujours. Quand l'espoir nous prend dans ses embuscades, quand nous parlons de retour. Mes amis d'hier, mes compagnons, mes amis heureux. En quelle île, quelle ville, quelle prison, où avez-vous disparu?
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre Mélina Mercouri qui a chanté « Ses amis disparus pendant la dictature militaire en Grèce ». Alexia Stouni, qui a rendu visite à ses amis pacifistes en France, nous a dit comment les gouvernants de la Grèce actuelle préfèrent acheter des armes plutôt que de restaurer les services publics. Alors j'ai demandé à Maurice Monté, secrétaire de l'Union Pacifiste, s'il était d'accord avec cette analyse.
Ben, je suis hélas tout à fait d'accord, d'autant plus que nous connaissons le même problème en France. Absolument. Hein. On délaisse les services sociaux, les hôpitaux, les écoles, les investissements culturels, les investissements pour l'écologie, hein, dont on a bien besoin, alors qu'on fait des dépenses faramineuses, énormes, pour le budget militaire. Non seulement
qui vient d'être augmenté, hein.
Qui vient d'être augmenté, mais terriblement, à un point qu'on n'a jamais vu ça. Et vraiment, il faudrait que la population dans nos deux pays, hein, Grèce et France, arrive à, non seulement à protester, mais à refuser de collaborer avec une telle situation. Et la militarisation de la société devient de plus, elle a toujours été, mais elle devient de plus en plus inquiétante. Et comme disait Macron, et pour eux, il faut une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est absolument effarant, quoi. Et là, avec nos gouvernements très à droite, comme en Grèce et comme en France, on développe une économie de guerre. Qui fait qu'enrichir, bien sûr, les marchands d'armes et autres profiteurs de guerre au détriment de la population civile. Ça, c'est très grave, et à mon avis, il faut essayer non seulement de le dénoncer, mais de voir où chacun nous pouvons collaborer malgré nous à ce système et essayer d'enrayer carrément cet engrenage qui ne peut que nous mener à la guerre.
Alors Jojo, tu avais fait une exposition il y a quelques années des affiches contre la guerre. Est-ce qu'il faudrait la refaire ?
Ah oui, sans arrêt. Ah bah oui, sans arrêt. Oui, il faut toujours remettre ça à l'ordre du jour. Bah là, je sors. En ce moment, il y a les manifs. Je sors avec la pancarte. C'est une ancienne affiche de Cabu qui disait bah, « Tout pour l'armée, rien pour ta gueule ». Puis c'était un char en train d'écraser une personne qui était en train de collecter pour le cancer. Alors moi j'ai recollé quelque chose sur le cancer, j'ai mis pour les retraités. Et ben aujourd'hui on est à 413 milliards de budget pour l'armée à venir, là qui vont venir, qui a été voté sans aucun problème, ça n'a pas fait de grandes discussions, c'est passé inaperçu. Et il faut que les gens ils le sachent. Et c'est pour ça que je me suis baladé dans les manifs. Alors c'était les manifs pour les retraites, mais je me suis baladé avec cette affiche là. Et ben ça a été très bien vu, les gens ont un peu... Mais ils ne sont pas au courant, il y a 413 milliards qui ont été votés pour l'armée pour les 4 ans à venir. Là. C'est incroyable, ça. Et ils ont voté aussi, il n'y a pas longtemps, 38 millions en début d'année, tiens, par hasard, comme ça, pour acheter des grenades lacrymogènes, des grenades offensives, des grenades assourdissantes, enfin tout le matériel... Miracle, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des manifestations, sûrement, mais ils ont un budget énorme. Et quand ils pleurent pour les retraites, qui manque un milliard pour les retraites, non, faut savoir ça, faut connaître ça. Donc je collectionne les affiches politiques, je garde toutes les affiches anti-militaristes, et il faut les repérer. Faut les remettre sur les murs de temps en temps pour que rappeler à tout le monde.
Mais je crois que tu le fais de le remettre sur les murs quand tu vas en Sologne.
Ah oui, oui. Bon, j'habite aussi en province. Bon, je suis issu de la paysannerie provinciale en Sologne, au centre de la France. Et j'en profite, oui. J'emmène toujours un rouleau d'affiches. Je colle tous les 3 semaines. Je change. Et puis ça donne l'occasion aux gens de voir aussi, parce qu'ils connaissent pas, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de campagne d'affichage, ou à part pour les élections, choses comme ça, quoi. Autrement, personne n'est au courant de rien, quoi. Alors donc, moi, je fais des placards, et les gens s'arrêtent, les prennent en photo, ça discute, parce que quand il y en a qui s'arrêtent, l'autre, il s'arrête aussi, parce que c'est un peu dans le désert, quoi, il n'y a pas grand monde. Alors donc, quand il y a quelqu'un qui s'arrête, tout le monde s'arrête, parce que pour savoir qu'est-ce qui se passe, et ça entraîne des discussions, et puis, ça permet de voir les gens, et puis... d'avoir des contacts.
En somme, Jojo, tu es un véritable provocateur dans ta région, avec tes affiches. Et bon, Alexia, donc, peut-être une dernière question. C'est un autre aspect de la France que vous ne connaissiez pas, ça, que tu ne connaissais pas.
Excuse-moi, je n'ai pas compris.
C'est un aspect de la France. Parce que tu dis que tu connais bien la France, parce que tu as appris le français parfaitement.
Ah, la langue.
Mais...
pas la France.
Mais cet aspect des Français, qui sont quand même contestataires, qui se révoltent, qui n'aiment pas trop l'armée, est-ce que tu connaissais ça avant de...
Non, je ne connaissais pas ça. C'est ça la raison. Quand j'ai découvert cette histoire, ce mouvement avec Maurice, c'est ça la raison que je voudrais apprendre plus et plus. Et maintenant, je suis très intéressée pour les offices. Je voudrais te demander si je peux prendre une collection pour faire exposition quand on aura notre réunion en Grèce de Béoc le avril. C'est très intéressant, toutes les affiches historiques, parce que tu vois, les mêmes choses, ça répète. Ça, c'est les financiers, les crises financières, les retraites. C'est les retraites, c'est une vraie nécessité pour l'homme. Ce n'est pas les tanks, les vraies nécessités pour l'homme. Donc, ça, c'est très, très, très intelligent, mes choses avec la fils. Bien fait.
Oui. Maurice, tu as quelque chose à rajouter?
Non, je remercie Alexia vraiment de nous avoir parlé de cette situation en Grèce et puis de marquer vraiment que nous sommes un mouvement tout à fait international. Et nous dénonçons toujours le nationalisme, le militarisme, et nous sommes vraiment avec nos amis du Bureau européen de l'objection de conscience et de l'international des résistants à la guerre, tout à fait sur la même longueur d'onde pour arriver à dénoncer ce qui se passe et la préparation de la guerre. La préparation qui se fait actuellement, beaucoup plus qu'il s'est toujours faite, mais qui se fait de façon extrêmement grave maintenant dans une société de militarisation et d'économie de guerre. C'est ça que nous refusons ensemble. Et je crois que ce qui est très important, c'est savoir désobéir, hein, comme nous l'a dit aussi Tolstoï. Et nous continuons à soutenir les objecteurs de conscience, et les déserteurs, les insoumis du monde entier, mais en particulier actuellement, de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie, puisque nous les mettons tous sur le même plan. Tous ceux qui refusent, qui savent dire non à la guerre, nous ne participons pas, sont des hommes et des femmes pour certains maintenant, certaines, que nous devons soutenir.
Écoute, je te dirai les mots les plus beaux, des mots d'amour que je connais et que jamais je n'oublierai. Des mots qui t'emmèneront comme un bateau jusqu'à la terre qui les a inventés. Écoute, je t'appellerai par les noms les plus tendres, et ces noms, je les connais. C'est une chanson que tous les amoureux du monde pourront chanter, car c'est l'amour, l'amour qui les a inventés. Palikari mou pikro, agoraki trifero, αχ, καρδιά μου, η ζωή. αγάπη μου, αγάπη μου. Écoute, je te dirai, Palikari, mon gars, ma beauté, Agoraki, mon garçon, Matia, mes yeux, Zoé, ma vie, Oniro Anapnoi, mon rêve, mon souffle, Agape, mon amour, mon amour, mon amour, Palikari mou, pigo, agoraki trivero, ach, καρδιά μου η ζωή, όνειρο
à l'envers, nos envies, devons-nous croire à un réveil dans l'au-delà des jours fériés, avec la photo du soleil brillant sur nos calendriers. Médiocratie, médiocrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiocrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité, médiocratie, médiocrité.
Thank you. Avec une petite chanson que j'ai écrite pour notre amie Juliette Gréco, Jujube. Pour ceux qui entrent dans la danse, au nom de la grande espérance, au mépris de leur vie, mon fils chante. Pour ceux qui luttent pour la vie, sans autres armes que leur vie, pour qu'ils vivent longtemps, mon fils, chante. Pour ceux qui combattent la nuit, pour le jour le soleil luira, pour tous les hommes, mon fils, chante. Pour ceux qui meurent en chemise, à l'aube du temps des cerises, sous les yeux des fusils, mon fils, chante. Mon fils, et toi le fils, qui naîtra de mon fils, tant que meurt la liberté, pour que la liberté vive dans le monde entier, mon fils, il faut chanter. Pour ceux qui poussent sans espoir, la porte étroite de l'histoire, au nom de l'idéal, mon fils, chante. Pour ceux qu'on traîne dans le noir, sur le sol du dernier couloir, des chambres de torture, mon fils, chante. Pour ceux qui ne verront jamais plus le soleil en rouge de mai se lever sur la liberté, mon fils, chante. Pour ceux qui jusque dans leur mort ont la force de vivre encore, pour ceux qui vont vivre, mon fils, chante. Mon fils, et toi le fils qui naîtra de mon fils, tant que meurt la liberté, pour que la liberté vive dans le monde entier, mon fils, il faut chanter, 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 chanter.
peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite. Mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut, pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.